Le sénateur Georges Naturel dépose une proposition de loi organique sur le corps électoral. Explication dans ce journal et réaction de Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès. Sudpro, quel bilan, quel avenir? Nous avons fait le point complet ce matin avec la secrétaire générale, le secrétaire général adjoint de la province Sud. Le nouveau cimetière de Dembéa à Katiramona inauguré ce matin, il répond à un besoin avec un nombre de décès en hausse sur la commune depuis l'implantation du Medipol. 20 milliards d'investissements étrangers en France, c'est le bilan du 8e sommet Choose Friends organisé par Emmanuel Macron. Et puis en sport, les premiers coups de raquette à Roland-Garros, 36 Français sont engagés dans les qualifications pour tenter de rejoindre le tableau final. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Bodin.
Un citoyen consacré cette semaine au tourisme.
Oui, un an après le début des émeutes, où en est ce secteur touristique? Le sujet sera ce midi au cœur de ce magazine Citoyen. Que constatent les professionnels du secteur? Quelles sont les pistes de relance? Nous en parlerons notamment avec Flore Roudot, chef du service tourisme à la direction du développement économique et touristique de la province Sud, avec Eugénie Carlo, responsable attractivité et commerciale de Sud Tourisme, et nous serons aussi avec Judicaël Sélefen, le directeur du GE Tourisme Province Nord. Rendez-vous donc à la fin de votre journal.
Et restons encore dans le domaine du tourisme. Mieux connaître la Nouvelle-Calédonie pour mieux la vendre. 7 agents de voyage australiens ont achevé hier leur voyage de 4 jours sur le territoire. Séjour au cours duquel ils ont découvert les offres touristiques locales dont ils vont pouvoir assurer la promotion en Australie.
Oui, c'est ce que l'on appelle un éduc-tour, une pratique assez courante dans les agences de promotion touristique comme Nouvelle-Calédonie Tourisme. Le principe est très simple. Pour mieux vendre une destination à l'étranger, des agents de voyage venant de ce pays sont invités à passer quelques jours sur le territoire. Mais cette année, l'enjeu était double. Il ne s'agissait pas seulement de faire découvrir la destination aux Australiens, mais aussi et surtout de les rassurer quant à la sécurité en Nouvelle-Calédonie. Rachel Marshall est la représentante de NCT en Australie.
On vend particulièrement bien quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on a essayé, qu'on a vécu, en particulier en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le but, c'est ce qu'on essaye de leur apporter. De la connaissance du pays aussi, parce que les agents de voyage sont les principaux prescripteurs du touriste australien et également de leurs collègues. Alors cette année, c'est particulier évidemment, en particulièrement important, pour qu'ils voient d'eux-mêmes que tout est parfait. Voilà, on a pu voir tous les partenaires, différents hôtels, différentes activités, ils ont pu constater par eux-mêmes que la Nouvelle-Calédonie était prête à accueillir dans les meilleures conditions les Australiens.
Et depuis l'année dernière déjà, NCT a entrepris son travail de promotion de la Nouvelle-Calédonie à l'international, un travail qui porte ses fruits. Andrew Parkimovic et Melissa Kolorich sont tous les deux représentants d'agences de voyage australiennes et comme ils en témoignent, leurs clients ont souvent demandé à pouvoir revenir en Nouvelle-Calédonie.
I think they're aware, but I don't think it's worrying people.
Oui, je pense que les gens sont au courant de la situation ici ces derniers mois, mais je pense pas que ça les inquiète. Ils sont passés à autre chose. Les Australiens sont des voyageurs, donc même quand le Covid nous a touchés, ils ont certes arrêté, mais dès que la situation s'est améliorée, ils sont repartis. En réalité, nos clients nous ont beaucoup demandé quand est-ce qu'ils pourraient retourner en Calédonie, parce qu'ils veulent revoir la Calédonie. C'est une des destinations qu'ils aiment le plus, parce que le climat ici en Australie, il est assez froid. Donc ils veulent s'éloigner et découvrir le Pacifique Sud.
J'ai vu beaucoup de publicité dans les médias australiens ces derniers mois et mes clients ont été très demandeurs. On promeut la destination de plus en plus. Oui, je pense que le travail de promotion a vraiment bien fonctionné. Après tout, ce n'est qu'à 3 heures de vol de Sydney, donc les clients n'ont pas besoin d'aller en Europe pour expérimenter la culture française.
L'éduc-tour a donc commencé vendredi dernier. Les 7 voyageurs ont visité plusieurs établissements hôteliers, à Nouméa, mais aussi à Bouraille. Ils ont multiplié les activités, jet-ski, bateau à fond de verre, plongée et bien d'autres. Et ils sont repartis hier très satisfaits de leur séjour en Nouvelle-Calédonie.
On n'a pas du tout eu de problème à notre arrivée. On a été très bien accueillis et on a pu voir que la vie avait repris un cours normal.
Oui, je pense vraiment que les gens ici sont magnifiques. Ils ont été très accueillants et bienveillants avec nous. J'ai appris énormément de choses sur la Nouvelle-Calédonie. J'ai d'ailleurs beaucoup posté sur Facebook et Instagram. J'ai eu des messages d'au moins 25 clients qui me demandaient où est-ce que j'étais parce qu'ils étaient intéressés. Et quand je rentrerai en Australie, je publierai des photos sur le site de l'agence. Je ferai de la promotion, je proposerai des packages, des offres spéciales avec les partenaires locaux. Les clients seront forcément intéressés parce qu'ils voudront expérimenter ce que j'ai expérimenté, pas en tant qu'agent de voyage, mais en tant que personne qui visite la Nouvelle-Calédonie.
Et au-delà de ces éduc-tours, Nouvelle-Calédonie Tourisme continue la diffusion de sa campagne à l'étranger.
On reparle du corps électoral. Le sujet redevient d'actualité avec la perspective de l'organisation des élections provinciales avant la fin du mois de novembre. Mais on ne sait toujours pas, Elisabeth Noir, qui sera appelée à voter.
Question récurrente s'il en est, alors que le corps électoral ne peut plus être gelé, mais que l'on recherche en vain un consensus pour son ouverture après la suspension de la réforme constitutionnelle de l'an dernier. Après le départ de Manuel Valls, le député Nicolas Mézenc avait annoncé le dépôt d'une proposition de loi organique à l'Assemblée nationale pour modifier le corps électoral. Et hier, c'est le sénateur Georges Naturel qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait déposé au Sénat une proposition de loi organique qui permettrait, selon ses termes, une actualisation du corps électoral provincial avec des objectifs plus modestes qu'un dégel. Selon lui, cela permettrait d'accorder à quelques milliers de Calédoniens le droit de vote aux prochaines provinciales. Sa proposition de loi organique vise à accorder le droit de vote à toutes les personnes nées en Calédonie et ayant eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux, à toutes les personnes ayant eu le statut civil coutumier, aux petits-enfants de citoyens calédoniens, à toutes les personnes ayant un de leurs ascendants nés en Calédonie et y ayant leurs intérêts matériels et moraux. Il affirme par ailleurs que ces propositions ont été largement discutées localement et qu'elles font l'objet d'un consensus politique. Les loyalistes et le Rassemblement ont pris connaissance de cette proposition et ils dénonçaient, je cite, une initiative qui, sous couvert d'ouverture, introduit en réalité une inégalité flagrante entre les citoyens calédoniens en provoquant une rupture d'égalité profonde entre Calédoniens de statut coutumier et Calédoniens de droit commun. Nous allons parler avec Virginie Ruftak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors peut-être une précision tout d'abord. L'an dernier, on s'en souvient, il y a eu une tentative de modification du corps électoral provincial par une réforme constitutionnelle. Ça supposait une adoption dans les mêmes termes par les deux assemblées, la réunion du Congrès de Versailles. Le texte n'est pas allé au bout de son cheminement pour des raisons que l'on connaît. Maintenant, on nous parle d'une loi organique. Alors, est-ce qu'une loi organique suffit pour modifier le corps électoral provincial ?
Alors, en fait, la modification, l'élargissement éventuel du corps électoral provincial passe par deux textes. Une réforme constitutionnelle, soit une réforme constitutionnelle, mais la loi organique à elle seule peut aussi modifier, introduire de nouvelles catégories de votants. Donc, élargir, effectivement, ce corps électoral provincial en introduisant de nouvelles catégories, mais pour toucher la durée de présence, c'est-à-dire le dégel du corps électoral, cette durée de présence, celle-ci, elle nécessite véritablement une révision constitutionnelle que la loi organique ne peut pas modifier.
Alors, lors des discussions sur l'avenir institutionnel, est-ce que vous avez parlé de cette question du corps électoral et est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage sur certains points ou pas du tout ? Est-ce que les indépendantistes ont évolué ?
Mais écoutez, sur le corps électoral, c'est un sujet dont on parle depuis le début des discussions institutionnelles. Vous le savez, pour nous, c'est un point de démocratie centrale dans l'évolution de l'avenir du territoire, avec les 43 000 personnes exclues, dont 12 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie qui sont exclues également. Donc évidemment, c'est un sujet dont on parle. Avant le 13 mai, on avait trouvé des voies d'accord sur ce sujet. Juste avant, on était en discussion dans les derniers jours avant le 13 mai pour trouver effectivement des évolutions possibles pour dégeler véritablement le corps électoral.
Avant le 13 mai 2024. Mais alors, et depuis, vous en avez reparlé, notamment à Deva, j'imagine.
Bien sûr, dans ces discussions, on en discute. Évidemment, les indépendantistes ne sont pas forcément très clairs hein, dans les discussions sur ce sujet, mais il y a une conscience collective que le corps électoral ne peut pas rester en l'état.
Il y a un accord sur les natifs déjà ou pas encore ? Parce qu'on dit souvent les natifs, ça fait plus débat.
Ça n'a pas été véritablement affirmé complètement. On avait senti qu'il y avait un accord sur les natifs, effectivement, mais du côté indépendantiste, mais ça n'a pas été véritablement verbalisé par les indépendantistes en tant que tels.
Alors l'actualité d'aujourd'hui, c'est que le sénateur Georges Naturel a déposé au Sénat une proposition de loi organique. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce texte ?
Alors, ce qui nous dérange beaucoup dans ce texte, c'est que vous savez, en matière de corps électoral, ces dernières années, on souffre de beaucoup d'exclusion et de discrimination. Et malheureusement, cette proposition de loi organique vient maintenir une discrimination fondamentale, puisque M. Naturel, par loi organique, ajoute, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, quatre catégories. Et dans ces quatre catégories, il y a donc les statuts coutumiers. Donc, moi, je n'ai pas compris véritablement que les statuts coutumiers étaient extrêmement exclus du corps électoral, puisque par d'autres voies, ils sont inscrits globalement. Mais en tous les cas, il inscrit donc sans autre condition, ceux qui relèvent du statut coutumier, donc tous les statuts coutumiers peuvent, par loi organique, être inscrits sur la liste électorale. Et puis, il y a les natifs de la Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, mais alors ceux-là, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, eux, eh bien, ils doivent justifier qu'ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux ou qu'ils ont eu le centre de leur intérêt matériel moraux en Nouvelle-Calédonie. Donc, vous faites une discrimination entre selon que vous êtes de droit commun, calédonien de droit commun, puisque vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, ou bien de statut coutumier, eh bien les autres n'auront rien à prouver, et ceux qui sont calédoniens de droit commun, ils devront prouver et donner tout un tas de documents. sur une notion, et c'est là-dessus que je veux insister, une notion dont nous ne voulions pas les intérêts matériels et moraux, parce que vous le savez, il a repris, M. Naturel, un élément qui était dans les conditions du référendum, des référendums. Et précisément, ça a été un enfer, ces IMM dans les référendums. Il y avait une commission qui avait été créée par l'État, moi-même j'avais été nommée par mon parti pour y siéger, qui s'appelait la commission d'évaluation du centre des intérêts matériels et moraux.
Parce que c'est extrêmement compliqué à prouver, à démontrer, il faut porter des tas de papiers.
Et vous aviez donc, l'État nous avait mis face à face, indépendantistes et non-indépendantistes, et vous aviez d'un côté les indépendantistes qui, eux, demandaient à ce que la personne, il fallait qu'elle atteste de 18 ans de présence, qu'elle ait un bien en Calédonie, que ses parents soient nés en Nouvelle-Calédonie. C'était ça le sens des intérêts matériels et moraux pour les indépendantistes. Et puis, vous imaginez bien que nous, il en était tout autrement dès lors que la personne était née en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, non seulement on fait une discrimination entre selon que vous êtes de statut coutumier ou vous n'avez rien à prouver, et selon que vous êtes de droit commun, calédonien de droit commun, où là vous allez devoir prouver, encore mettre votre vie sur la table pour justifier que vous avez bien un attachement avec notre territoire. Donc c'est une grande injustice et nous voulions arrêter les injustices en matière électorale.
Bon, mais alors vous n'en avez pas parlé entre vous parce que le sénateur Naturel ne participe pas aux discussions sur l'avenir institutionnel, mais il ne s'est pas concerté avec les loyalistes, le Rassemblement, avec son collègue le député Metzdorf.
Visiblement non, c'est dommage, parce que vous imaginez bien que Nicolas Metzdorf, s'il devait déposer une proposition de loi organique à l'Assemblée, ça ne serait évidemment pas celle-ci. Hein. Nous nous battons ensemble, justement, pour que les Calédoniens, enfin, aient des droits identiques et ne soient pas traités différemment selon que vous êtes d'une origine, d'un statut ou d'un autre.
Alors, justement, quelles sont les modifications qui peuvent être apportées? Vous vous dites, ça ne peut plus être un parlement organique, ça ne peut pas être un dégel complet du corps électoral. Quelles sont les modifications qui pourraient être introduites au travers d'une loi organique et qu'est-ce que vous souhaiteriez voir? Comment est-ce qu'on peut l'ouvrir, ce corps électoral provincial?
La loi organique, elle peut faire beaucoup de choses déjà, rien qu'à elle seule. En dehors de la réforme constitutionnelle, qui doit agir sur la durée de présence et qui est nécessaire, car des personnes qui sont depuis 27 ans en Nouvelle-Calédonie, c'est plus possible de leur dire qu'elles ne pourront pas voter aux élections provinciales. Mais la loi organique, elle peut faire un certain nombre de choses. Les natifs de la Nouvelle-Calédonie, elle peut les inscrire, mais il ne faut pas leur demander de devoir encore faire de lourdes démarches administratives. Vous êtes né en Nouvelle-Calédonie à 18 ans, vous voulez vous inscrire. Si vous êtes là à 18 ans et que vous y êtes né, c'est que votre attachement est réel. Donc vous ne devez avoir aucune autre condition. Et on ne peut pas imposer des conditions aux Calédoniens de droit commun, et n'imposer aucune condition de justification au statut coutumier. Donc, il ne doit pas y avoir de statut coutumier, il doit y avoir la naissance. Vous êtes né, donc vous votez. Puis par ailleurs, vous savez, il y a des catégories, une catégorie qui nous tient à cœur, c'est celle des conjoints de Calédoniens. Or, elle ne figure pas dans la proposition de M. Naturel. Et là, ça peut être modifié par loi organique, ça. Et puis, il y a ceux qui ont un enfant né en Nouvelle-Calédonie. Vous avez votre famille, vous y vivez, vos enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie. Quoi de plus pour montrer son attachement à la terre calédonienne? Eh bien, tout ça n'y figure pas. On a les statuts coutumiers. Les natifs, eux, devront donc prouver de manière très complexe. Et nous allons nous battre, si jamais cette proposition venait à être adoptée, ce qui n'est pas encore le cas, mais à nous battre sur ces cas-là. Donc, évidemment, nous sommes désolés qu'il n'y ait pas eu de concertation et que nous n'ayons pas pu travailler de concert. Là où l'unité des partisans de la France est nécessaire.
Donc on risque d'avoir deux propositions de loi organique, une à l'Assemblée, une au Sénat. Est-ce que l'une des deux a des chances d'être adoptée ou pas du tout?
Je crois surtout que Nicolas Metzdorf et Alice Ponga aussi essayaient de travailler à ce que nous travaillons, notamment avec les indépendantistes, pour dégager des formes de consensus sur ces sujets, pour tenter éventuellement de porter les choses ensemble, de façon à ce qu'à Paris, ça soit plus facile. Nous devons sécuriser électoralement ces élections, c'est indispensable, parce que sinon il y aura des tonnes de recours, et nous en ferons nous-mêmes, car nous n'accepterons pas le corps électoral gelé, qui mettront à mal la sincérité du scrutin et risquent d'annuler les élections provinciales, c'est ça la réalité. Et nous nous battrons jusqu'au bout à tous les niveaux, car nous n'accepterons jamais ce corps électoral fermé et l'exclusion de milliers d'habitants de la Nouvelle-Calédonie qui sont là depuis tant d'années et qui ont fondé leur vie et leur famille ici.
Alors, tout de même, est-ce qu'on peut envisager, ce sera ma dernière question, des élections provinciales à corps constant? C'est ce qu'envisage Manuel Valls dans le courrier qu'il vient d'adresser aux délégations politiques.
Bien sûr que non pour nous, vous le savez bien, le Conseil d'État le dit lui-même, il dit lui-même que ce corps électoral ne peut plus exister, ça veut dire que ça ouvre la porte à des recours devant le Conseil d'État, puis Conseil constitutionnel, ou du Conseil constitutionnel, je n'ai pas à juger à la place du Conseil constitutionnel, mais je ne vois pas comment il peut accepter un tel corps électoral, donc bien sûr que non, et nous sommes, vous le savez, au-delà du corps électoral, en total désaccord avec ce que propose Manuel Valls sur la table, qui n'est rien d'autre qu'une véritable indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi un grand déni de démocratie, alors que les Calédoniens, par trois fois, ont choisi de rester au sein de la République française.
Merci Virginie Refnac d'être venue nous donner toutes ces explications ce midi.
Merci.
Et à 11h45, une première pause dans ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Jusqu'au 25 mai, célébrons la fête des mères comme il se doit. Craquez pour notre rosier Meillant à 2990 francs seulement. Fleurs, senteurs, bien-être, déco, vous trouverez à coup sûr le cadeau idéal pour lui faire plaisir. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Sudpro a rencontré un franc succès. Lancé par la province Sud, le dispositif vise à soutenir les TPE et les patentés en injectant de l'argent dans l'économie. L'institution prend en charge des factures professionnelles pour un montant de 250 000 francs maximum. La province Sud, dans un premier temps, a débloqué 1 milliard de francs et face aux nombreuses demandes, elle a rallongé l'enveloppe de 200 millions. Lancée au début du mois, la plateforme de la province a en effet enregistré 5 300 demandes de règlement de factures. 1 700 d'entre elles ont été traitées à l'heure actuelle. Christophe Vergès, le secrétaire général adjoint de la province Sud était notre invité ce matin pour dresser un premier bilan.
L'idée, c'est vraiment d'aider des entreprises qui sont dans une réelle difficulté économique. Et de ce point de vue-là, on a quand même beaucoup de retours très, très positifs d'artisans, de très petites entreprises qui nous disent « Grâce à vous, j'ai pu réparer mon matériel de travail, j'ai pu un peu pérenniser mon activité et ça me permet de tenir ». On a beaucoup de cas, en fait, où le matériel était dégradé et ce dispositif était là pour les aider. Et de ce point de vue-là, l'objectif nous paraît déjà rempli. Et il faut dire aussi, je disais qu'on a une plateforme de mise en relation des entreprises. On a près de la moitié des transactions qui se font, enfin,
des mises en relation,
des mises en relation qui concernent les très petites entreprises entre elles. Et là aussi, de ce point de vue-là, pour nous, l'objectif, il est déjà atteint.
La province veille à ce que l'utilisation des fonds soit uniquement professionnelle. Des contrôles sont opérés en ce moment pour éviter les abus, voire les fraudes.
Aujourd'hui, on est dans la phase de contrôle du bon usage de cette aide qui relève quand même de crédit public. L'ensemble du dispositif, effectivement, fait l'objet d'un contrôle. Vous avez un contrôle qui se fait quand même à l'inscription. Vous avez des critères, n'importe qui ne peut pas s'inscrire sur cette plateforme avant que la province ne paye effectivement la facture. Des vérifications qui sont faites à plusieurs niveaux. D'abord, on regarde s'il n'y a pas d'usage effectivement manifestement abusif du dispositif. Clairement, c'est un dispositif qui a vocation à revitaliser le tissu économique, à aider les très petites entreprises, en aucun cas à prendre en charge des dépenses personnelles.
Donc, dans ce cas-là, vous rentrez en contact avec les personnes ?
On leur demande les justifications parce qu'ils peuvent parfois avoir une bonne justification, mais si on considère que la dépense n'est pas justifiée, la facture sera rejetée et ne sera pas prise en charge par la province Sud.
Et en cas de mauvaise utilisation délibérée des fonds, la province Sud fera un signalement auprès du procureur de la République. Les sommes annulées seront remises dans le pot commun, nous a dit Christophe Vergès.
Les factures qu'on ne prendra pas en charge, ça permet de réalimenter l'enveloppe initiale qu'on avait prévue. Alors évidemment pas avec la même ampleur que ce qu'on a eu les deux dernières semaines, mais celui qui joue le jeu, il a quand même toutes ses chances de voir sa facture prise en charge, même s'il est arrivé un peu tard, parce que c'est vrai que le dispositif a eu un très très grand succès. Effectivement, on est déjà en train de réfléchir à des évolutions de la plateforme. On a réussi à constituer finalement en l'espace d'une quinzaine de jours une communauté des très petites entreprises. Et donc, on cherche des moyens de voir comment on peut encore les aider, comment on peut faciliter leur démarche par exemple, comment on peut leur donner plus d'opportunités. Très très rapidement en fait, on reviendra vers les très petites entreprises pour présenter le fruit de notre réflexion. Il faut aussi qu'on fasse un petit bilan du dispositif qui a encore une fois été particulièrement rapide et performant.
Christophe Vergès, le secrétaire général adjoint de la province Sud, qui était donc notre invité ce matin. Il a évoqué aussi les dispositifs Sud Santé et Sud Jeunes. Un tout nouveau cimetière à Dumbéa. Il a été inauguré ce matin par le maire de la commune, Johan Lecourieux. Un cimetière rendu nécessaire pour répondre aux besoins des administrés, Léo Fichou.
Oui, cimetière qui est situé au bord de la RT1 à Catiramona. Un projet qui, comme vous le disiez, répond à la saturation du cimetière du Calvaire qui ne dispose plus que d'une dizaine de concessions et aussi à l'augmentation du nombre de décès dans la commune, plus de 600 par an depuis l'implantation du Medipol en 2017. Écoutez, Johan Lecourieux, maire de Dumbéa.
C'est un équipement nécessaire et indispensable pour la commune parce que notre cimetière actuel était saturé. Et donc on voit que le nombre de personnes décédées sur la commune augmente. C'est un projet que nous travaillons depuis 2020 avec l'acquisition du terrain dans un premier temps. Puis après l'aménagement qui a traversé en plus des périodes compliquées avec l'année 2024. Mais on a réussi à livrer aujourd'hui un bel équipement qui va être là pour les 12 ans à venir dans sa première phase d'aménagement, mais qui peut être exploité aussi sur 40 à 50 ans.
D'une superficie de plus de 2 hectares, ce nouveau site offre 485 emplacements traditionnels, 124 caveaux, mais aussi 36 urnes funéraires et des espaces dédiés aux confessions juives, musulmanes, aux enfants et aux indigents. Un jardin du souvenir et une aire de condoléances y sont également aménagés. On retrouve Johan Lecourieux.
Plusieurs carrés qui ont été travaillés avec l'ensemble des communautés religieuses et autres qu'on a reçus depuis de nombreuses semaines. Puis on a replacé avec eux parce qu'il y a des positions de corps qui sont très particulières aux unes et aux autres. Donc on a fait la visite aussi, une prévisite du chantier avec eux pour bien redéfinir les emplacements que l'on avait initialement définis avec eux. En plus d'un préau de plus de 100 mètres carrés pour pouvoir accueillir les condoléances des familles. Donc on a essayé de vraiment amener un service qui était supérieur à l'ancien cimetière.
Les travaux lancés en 2022 ont coûté un peu plus de 300 millions de francs à la commune de Dumbéa.
Dans le reste de l'actualité en Calédonie, en bref, les faits divers. Hier, vers 21h30, deux gendarmes hors service ont constaté qu'un individu mettait le feu aux brousses le long de la VDO à l'entrée du COS au niveau du plexus. Le pyromane a été interpellé en flagrant délit. Il est actuellement en garde à vue. Lors de l'interpellation, un des gendarmes a été mordu à un doigt et une plainte a été déposée. Aux assises de Nouméa, le ministère public a requis une peine de 15 ans de prison à l'encontre de l'accusé. Il comparaît depuis hier pour viol sur conjoint. Le verdict sera rendu dans la journée. La Calédonienne des Eaux ferme ses agences de vendredi à lundi inclus. La CDE monardise son système d'information client. C'est la raison pour laquelle l'agence en ligne et les bornes de paiement seront également indisponibles du 23 au 26 mai inclus. Pendant cette période, le service d'astreinte technique reste mobilisé pour assurer les interventions urgentes au 050 125. Le 050 125. Et puis un rappel avant la deuxième pause de ce journal. C'est aujourd'hui la date limite de déclaration des revenus pour les particuliers qui résident à Nouméa et qui ont choisi d'opter pour une déclaration en ligne. Les résidents hors de Nouméa ont encore une semaine pour télédéclarer leurs revenus. La date limite est fixée au mardi 27 mai. On se retrouve dans un instant pour évoquer l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants !
Lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Eh ouais !
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
3 francs de remise tous les jours et le mardi, c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
Et si cette année, on chouchoutait nos mamans ? Jusqu'au dimanche 25 mai, joue avec Arnaud, c'est tente de lui offrir un week-end détente, une journée au spa ou un coffret de pâtisserie pour partager un moment ensemble. Réalise une recette avec ton produit Arnaud préféré et double tes chances de gagner. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Community NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
20 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, c'est le résultat du 8e sommet Choose Friends organisé à Versailles par Emmanuel Macron qui avait convié plusieurs grands dirigeants étrangers. Un succès pour le chef de l'État qui s'est employé à convaincre ses interlocuteurs. Baptiste Morin pour Europe 1.
Et le président qui n'a pas passé sous silence les difficultés actuelles, il a même été assez transparent.
Clairement, la situation n'est pas la meilleure aujourd'hui en Europe. Soyons lucides. Where we
stand. Emmanuel Macron qui s'est réjoui tout de même d'une édition complète avec de très nombreux secteurs concernés par les annonces d'investissement. Le président a tracé la trajectoire nécessaire selon lui pour que la prochaine édition ait une chance de battre à nouveau des records.
Les priorités sont d'abord la stabilité sur la fiscalité, notamment la simplification comme nous le faisons avec les réglementations pour que les choses aillent plus vite, par exemple sur les data centers, et puis la confirmation de l'objectif de décarbonation.
Le président qui a tenu un discours très critique envers l'Europe, il a demandé la suppression de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Et le chantier prioritaire pour lui, c'est d'en finir avec la naïveté européenne. Le président qui a invité les Européens à se regarder avant de critiquer les autres, sous-entendu les Américains et la guerre commerciale lancée par Donald Trump, dont le nom n'a pas été cité.
L'actualité politique en métropole est toujours marquée par l'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR et cette question récurrente, doit-il rester ou non au gouvernement ? Certains réclament en effet sa démission, mais pour l'instant, cette hypothèse est écartée par le principal intéressé, qui a même réaffirmé sur Europe 1 qu'il ne renonçait pas à sa ligne de fermeté.
Nous allons bâtir un projet. Ce projet, ça ne sera pas de l'eau tiède. Ce projet, ça ne sera pas de la rustine. Ce projet, ce sera une rupture.
Bruno Retailleau, invité de nos confrères d'Europe 1.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS avec justement la question du jour. Après avoir été élu président des Républicains, Bruno Retailleau doit-il, selon vous, rester au sein du gouvernement comme ministre de l'Intérieur ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que Manuel Valls a tort de réunir un comité de suivi avant la fin du mois de juin pour poursuivre le dialogue politique sur la base de son projet de souveraineté avec la France. Ils sont 12% à penser qu'il a raison de le faire. L'actualité en métropole, c'est aussi la suite des débats sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Et les débats sont vifs. Les députés ont adopté un article clé qui crée le droit à l'aide à mourir. Mais il faut maintenant fixer les critères d'éligibilité. Pour l'instant, le texte prévoit que toutes les personnes majeures souffrant d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, pourraient demander l'aide à mourir. Mais une partie des parlementaires juge ces conditions inadaptées. Jacques Serret pour Europe 1.
Dans un hémicycle clairsemé, certains parlementaires ne veulent rien lâcher. Pour la députée RN Marine Amelé, le terme phase avancée inscrit dans la proposition de loi est bien trop flou.
C'est une notion qui est bien trop subjective et qui va mettre nos soignants une fois de plus dans l'embarras.
Face au contre-argument du rapporteur du texte, le député pro-euthanasie Olivier Falorni, l'élu LR Philippe Juvin, par ailleurs professeur de médecine, chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, réplique.
Ainsi qu'il est écrit, et je le regrette, nous allons inclure potentiellement des patients qui ont plusieurs années à vivre. Dans ces cas-là, il ne faut pas dire que c'est l'ultime recours. On est sur autre chose.
Et lorsque les critères d'accès à l'euthanasie, comme le fait de présenter une souffrance physique ou psychologique, sont évoqués, le député proche d'Éric Ciotti, Alexandre Allégret-Pilot, prend la parole.
Si on se base uniquement sur l'existence d'une souffrance psychologique, alors on peut douter, très logiquement, de l'existence même du discernement, de la qualité de ce dernier. Le cas échéant, il faut assumer clairement d'ouvrir l'euthanasie à tout à chacun, parce que c'est ce vers quoi on se dirige.
Une mise en garde qui ne semble pas alerter les défenseurs de cette proposition de loi, bien décidés à aller jusqu'au bout.
Venons-en à l'actualité à l'étranger. D'abord, Benjamin Netanyahou qui annonce qu'Israël veut contrôler l'intégralité de la bande de Gaza. Dans une vidéo, le Premier ministre israélien annonce qu'il veut détruire le Hamas et libérer les otages. Et puis 2 heures de conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont bien sûr entretenus sur la mise en œuvre éventuelle d'un cessez-le-feu. Ils se sont dit satisfaits de leurs échanges, même s'il est difficile d'en connaître le contenu. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Comme attendu, aucune annonce majeure et concrète concernant un cessez-le-feu n'a accouché de cet appel. Vladimir Poutine se dit seulement prêt à ouvrir un mémorandum avec l'Ukraine concernant un éventuel arrêt des combats. Donald Trump assure de son côté que des négociations entre Kiev et Moscou vont commencer immédiatement à propos d'un cessez-le-feu. Mais selon Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, il faut encore rester très prudent.
Il s'agit de débuter des négociations sans délai en vue de la conclusion d'un cessez-le-feu, ce qui veut dire qu'en réalité, rien n'a été conclu entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On va voir qui va négocier pour la partie russe, qui va négocier pour la partie ukrainienne. Donc pour l'instant, bien sûr, on parle d'un cessez-le-feu, mais rien n'est certain.
Volodymyr Zelensky se dit de son côté prêt à étudier ce fameux mémorandum, même s'il dit attendre d'en connaître les détails. Alors si ce mémorandum proposé par Vladimir Poutine voyait le jour, cela pourrait ouvrir la porte à des négociations plus concrètes autour d'un cessez-le-feu. Des négociations qui, comme le dit Donald Trump, pourraient se dérouler au Vatican autour du pape Léon XIV, qui a lui-même proposé d'accueillir de futurs pourparlers.
À midi, la dernière pause de ce journal avant quelques mots de sport et on retrouve ensuite le magazine citoyen consacré cette semaine au tourisme.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Découvrez Papaï, le nouveau service d'autopartage 100% digital pour les particuliers et les pros. Réservez en un clic et roulez en toute liberté, www.papaï.nc.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
Pour la fête des mères, offrez-lui un bijou Créator. Joaillerie, or, argent, perles, coup de cœur. Créator, c'est plus de 4000 références et 3 boutiques à votre service. Alma, 7e kilomètre et Païta. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu, à seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on va parler tennis. Les qualifications à Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, ont débuté hier, Léo Fichou.
Oui, un démarrage en demi-teinte pour les tricolores, puisque 8 sont qualifiés pour le deuxième tour de ce tableau de qualification, mais 8 sont déjà éliminés. Dans le détail, chez les hommes, d'abord Mathis Erard, Sacha Guémard-Royambourg, Matteo Martino et Kyrian Jacquet sont pour l'instant les 4 seuls à avoir remporté leur premier tour. 4 autres Français, dont Constant Létienne et Grégoire Barrère, qu'on a déjà vu sur le Challenger de Nouméa, sont eux éliminés. Chez les dames, elles sont 4 qualifiées. Donc pour le deuxième tour, Carole Monet, Fiona Ferro, Julie Belgravé et Margot Rouvroy. Mais comme je le disais, c'est malheureusement déjà terminé pour 4 autres tricolores. Ce soir, on espère voir de nombreux Français s'imposer, puisque ce sera la suite du premier tour des qualifications. On retrouvera 20 Français, 6 femmes et 14 hommes sur les courts de Roland-Garros.
Et puis un mot de cyclisme pour parler de la 10e étape du Giro ce soir.
Après une journée de repos, les coureurs s'élanceront pour 28,6 km de plat entre Toscane et au départ de Luc, pour en arriver au pied de la tour de Pise. C'est un contre-la-montre individuel. Pour rappel, après 9 étapes, c'est Isaac Del Toro qui est en tête du classement général. Le premier Français, Nicolas Prodhomme, est 24e à près de 6 minutes du leader. Mais attention, le classement général pourrait bien être chamboulé à l'issue de ce contre-la-montre. Les favoris comme Primoz Roglic, les frères Yates ou encore Brandon McNulty ne sont pas très loin.
Merci beaucoup Léo, c'est la fin de ce journal.